20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est un fait, Néandertal est aujourd'hui l'objet d'une grande réhabilitation au travers d'ouvrages comme d'une grande exposition parisienne. Pour autant, ne faudrait-il pas oublier Cro-Magnon ? Cro-Magnon qui, en 2018, fête les 150 ans de sa découverte dans un minuscule abri dominant la Vézère. Cro-Magnon, c'est vous et moi, un peu plus grand, le cerveau peut-être un peu mieux fait, ou du moins une capacité crânienne supérieure à la nôtre. Cro-Magnon, emblématique homme moderne du paléolithique supérieur, est aussi le symbole d'une France préhistorique et lointaine, celle des peintres de Chauvet, mieux de la grotte de Cussac. Pour savoir si Cro-Magnon est bien notre ancêtre direct, si ses gènes seraient encore en nous, pour découvrir 150 ans d'inlassable recherche, je me suis rendu là où il est encore aujourd'hui conservé, au Musée de l'Homme, pour rencontrer Antoine Balzeau, paléontologue et chargé de recherche au CNRS. Antoine Balzeau, à deux pas de l'hôtel du même nom, l'abri de Cro-Magnon aux Aisies est une minuscule cavité. C'est pourtant là qu'une grande découverte de la préhistoire mondiale a été faite.
Oui, en effet, aujourd'hui, c'est pas un endroit très remarquable, très marquant. C'est juste un abri sous roche, complètement vidé, où finalement, il y a plus grand-chose à regarder. Il a été réhabilité quand même. Il y a peu, c'était un endroit qu'on ne pouvait pas voir. Depuis, il y a un musée du même nom qui s'est installé juste à côté. Ils en ont profité pour nettoyer, refaire des analyses. Il y aurait peut-être même des traces de pigments sur les parois, donc c'est intéressant. Donc une revalorisation de ce site-là, qui est un endroit très important de notre préhistoire et de notre histoire, puisque c'est là qu'ont été trouvés ces fameux squelettes de l'homme de Cro-Magnon.
L'abri de Cro-Magnon, c'est combien d'individus ?
C'est une excellente question, parmi celles où il est difficile de répondre. Au départ, ont été reconnus 4 individus, parce qu'il y avait 4 crânes plus ou moins complets, des morceaux pour le quatrième, il y a peut-être un cinquième individu, mais en fait on n'en est pas totalement certain, parce que ces squelettes ont été trouvés mélangés, ou en tout cas on n'a pas d'informations précises comme celles qu'on peut avoir dans des fouilles d'aujourd'hui qui nous permettent de reconstituer facilement les corps. Donc on a des ossements de plein d'individus, autour de 4 ou 5. Peut-être un peu plus, mais pas beaucoup plus, vu le nombre de restes que nous avons et les appariements qu'on peut faire entre les individus.
Antoine Balzeau, vous me disiez 4 hommes, peut-être 5 individus. Est-ce qu'on a une idée des sexes et des âges ?
Oui. Alors, on n'a pas une idée très précise des âges et des sexes, en fait, pour des fossiles comme ça. En fait, on a 3 crânes vraiment bien conservés, un très connu, le fameux vieillard qui est très reconnaissable avec ses marques sur le visage, qui est très robuste. Un deuxième, le numéro 3, qui est aussi très robuste, et un deuxième plus gracile qui est le numéro 2. Et ce qui fait que la logique dès le début a été de dire qu'on avait 2 mâles, 2 hommes, et puis une femme jeune parmi ces 3 crânes. Il y aurait un quatrième adulte à partir des restes, et puis il y a des restes d'un enfant aussi. Donc ça nous fait un certain nombre d'individus, mais il faut toujours rester prudent avec ces déterminations-là, parce que connaître le sexe à partir d'un crâne, il y a toujours une marge d'erreur. Surtout, comme je vous le disais, les ossements ne sont pas attribuables de manière très précise aux différents individus, donc on ne peut pas être certain que les bassins sont ceux des crânes, et donc être sûr des déterminations sexuelles de tous ces individus.
Vous me parliez d'un vieillard. On est vieux chez Cro-Magnon à partir de quel âge ?
Alors voilà une autre question qui montre combien il est difficile de déduire des informations. On est toujours dans un raisonnement circulaire et celui-là, il date depuis 150 ans. Dès les premières publications anthropologiques, la question est de dire, c'est un vieillard, mais puisqu'à l'époque, ils étaient plus archaïques, plus primitifs que nous, leur croissance et leur vieillissement allaient plus vite que le nôtre. Donc, il est très vieux, mais pas aussi vieux qu'il aurait été si c'était un homme d'aujourd'hui. Alors que finalement, on n'en est pas totalement certain. Et c'est une des difficultés en anthropologie biologique, c'est de déterminer l'âge d'un individu, surtout chez les adultes. Clairement, vu son anatomie, c'est un homme âgé, mais c'est impossible de dire avec précision s'il avait 40, 50, 60, 70 ans, mais c'était probablement déjà un homme vraiment avancé en âge.
En tout cas, moi j'ai lu qu'il avait 40 ans. Ça,
En fait, 40 ans, c'est un peu la limite théorique qu'ont fixé les anthropologues de se dire l'espérance de vie au paléolithique devait être à peu près de 40 ans, qui est en gros celle des grands singes d'aujourd'hui. Donc on sait, et puis aussi celle qu'on connaît ou au moins qu'on estime historiquement pour les périodes moyenâgeuses ou romaines où on se dit bon, l'espérance de vie à cette époque-là, c'était 40 ans. Le biais de cette idée-là, c'est que on confond plusieurs choses. Une espérance de vie, c'est une moyenne, et c'est certain que la moyenne au paléolithique, c'était pas la moyenne d'aujourd'hui. En France, pays riche, développé, où on a des moyens pour soigner qui nous permettent de vivre en moyenne presque à 80 ans et pour certains centenaires. Et justement, on oublie qu'au paléolithique, ben, il y avait aussi des personnes qui pouvaient vivre bien au-delà de la moyenne. Et donc, des hommes qui ont eu 70 ou 80 ans au paléolithique, c'est quelque chose qui a probablement dû arriver aussi.
En tout cas, dans cet abri de Cro-Magnon, peut-on penser que nous avions affaire à des tombes? Des tombes, bien sûr, qui n'auraient pas été vues.
Vaste sujet, ça reste assez ouvert pour plusieurs raisons. Alors, il n'y a pas eu de tombe clairement identifiée sur le moment. A priori, des écrits que l'on a, les squelettes étaient assez mélangés, assez distribués partout. Ils racontent l'idée d'une sépulture simple pour chaque individu, avec les corps bien en position. Mais ce qui n'exclut pas le fait que ça puisse être aussi un type de pratique, de rituel autour de la mort, de mettre les corps ensemble dans des fosses communes, peut-être en les remaniant, peut-être en transformant quelque chose. C'est toujours difficile. Alors là, évidemment, on n'aura jamais le contexte suffisamment détaillé à Cro-Magnon pour pouvoir le réévaluer, mais c'est quelque chose qui se pose pour d'autres gisements. Il y a l'abri Pateau qui se situe pas très loin du site de Cro-Magnon, où il y a aussi des restes humains et où l'hypothèse aujourd'hui, c'est de considérer qu'il y a eu des rituels autour de la mort, avec des corps qui ont été déposés, mais très partiels, au fond, près de la paroi. Et peut-être, est-ce qu'on observe la même chose à Cro-Magnon? Des choses compliquées, avec des comportements complexes, difficiles à observer, surtout quand on n'a pas des fouilles actuelles pour observer tout ça.
Alors, il faut dire quand même que les tombes au Paléolithique supérieur, il y a environ 30 000 ans, sont très très rares. Elles sont même rarissimes.
C'est totalement exceptionnel. On en connaît des anciennes, c'est ce qui biaise un peu aussi notre perception. On connaît plusieurs tombes qui ont plus de 100 000 ans, peut-être, néandertaliennes ou d'Homo sapiens, au Proche-Orient. On en connaît quelques-unes, a priori, pour Néandertal. En tout cas, on retrouve des corps très bien conservés dans des contextes qu'on pourrait imaginer comme liés à l'activité anthropique, à des vraies sépultures. Mais pour Homo sapiens, finalement, si on fait un vrai compte des sépultures qu'on peut connaître pour les périodes anciennes, c'est très très faible. Je ne connais pas le chiffre exact, mais en Europe de l'Ouest, il n'y en a quasiment aucune vraiment bien conservée. Il y a des sites particuliers comme Cussac aujourd'hui où on se pose vraiment la question de ce qu'on y trouve. C'est en cours d'étude, c'est d'ailleurs exceptionnel et c'est génial que ça ait été préservé, qu'aujourd'hui il y a un travail de fond et sur le long terme qui soit fait pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est évidemment une des difficultés quand on retrouve des restes archéologiques, essayer de comprendre ce qui s'est passé il y a des dizaines de milliers d'années.
Alors la grotte de Cussac, j'en parlais voici peu, ce sont bien sûr plusieurs corps qui ont été découverts dans des sortes de bauges d'ours, voire aussi dégoulinant un peu sur une pente. On serait là, dans cette fameuse grotte qui a été découverte il y a une vingtaine d'années, devant des Cro-Magnons?
Ah, c'est une très bonne question. Je pourrais pas répondre à la ressemblance précise parce que les ossements n'ont pas encore été étudiés. C'est en cours. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des choses très variables, des corps plus ou moins complets, des amoncellements d'ossements, justement d'individus plus ou moins partiels. Et c'est pour ça que c'est extraordinaire et que ça pose vraiment une question par rapport au rite autour de la mort pour ce gisement-là. L'autre complication, c'est ce qu'on appelle Cro-Magnon aujourd'hui, comment on définit ce groupe-là. C'est aujourd'hui un terme générique qu'on a étendu à partir de la découverte des premiers spécimens dans le site du même nom, mais qui finalement n'a pas de réel sens scientifique.
Dans cet abri de Cro-Magnon, hormis quelques os de 4-5 individus, est-ce qu'il y avait aussi du matériel, du mobilier archéologique?
Il y avait de l'outillage, il y avait clairement un remplissage de plusieurs époques chronologiques, ce qui a posé d'ailleurs pas mal de problèmes pour essayer de comprendre de quand dater ces spécimens-là. Et il y avait aussi certains objets assez importants, des objets d'art plus récents a priori que les squelettes. Et associés aux squelettes, par contre, il y avait tout un ensemble de petits coquillages qui laisseraient penser qu'ils étaient décorés, qu'ils portaient des ornements faits en coquillages.
Aujourd'hui, tout ce mobilier, qu'il soit humain ou la parure, a été dispersé dans différents musées français?
Alors, il l'a été comme c'était de coutume à l'époque, en fait. Les préhistoriens du 19e siècle, quand ils fouillaient un site, ils récupéraient des objets, ils gardaient les plus beaux, ils ne conservaient pas tous les petits fragments qu'on peut étudier aujourd'hui, et puis ils les distribuaient après, ce qui fait qu'il y avait des séries, des collections dans différents musées. Ça a dispatché comme ça les sites archéologiques, et de toute façon, il n'y avait qu'une information partielle qui était conservée. Pour Cro-Magnon, les principales pièces, en tout cas, sont conservées ici au Musée de l'Homme. Vous pouvez même d'ailleurs observer la plupart de ces originaux. Le collier ou les crânes de Cro-Magnon sont visibles dans la galerie de l'Homme ici au Musée de l'Homme.
En tout cas, ces Cro-Magnons, ils datent exactement de quelle période? Est-ce que l'on peut les voir du début du Paléolithique supérieur, ce que l'on appelle l'Aurignacien, ou une période un petit peu plus tardive, le Gravettien, comme on en parlait à l'instant dans la grotte de Cussac?
Ça a été un des problèmes soulevés au départ. L'idée était que ces spécimens étaient très anciens, datés probablement de l'Aurignacien, mais il n'y avait pas de date directe sur ces fossiles-là. Et puis, une nouvelle fois, le contexte fait que c'est difficile de savoir exactement dans quelle couche ils étaient. Il y a quelques années, un travail a été entrepris de datation sur les coquillages par Dominique-Henri Gambier. Elle a publié des résultats qui donneraient un âge autour de 28 000 ans, donc plus récent que l'Aurignacien, contemporain peut-être de Cussac, ça reste encore à définir. Il y a des couches du même âge aussi à l'Abri Patau, donc c'est intéressant de pouvoir comparer comme ça ces gisements-là. Et finalement, ces hommes de Cro-Magnon sont plus récents que ce qu'on pensait auparavant.
Et ça correspond à une période où on enterre beaucoup de ses morts, même si on en a très peu.
Justement, c'est le début des corps, les moments où on commence à en trouver. On n'en a aucun pour les périodes plus anciennes, aurignaciennes. C'est assez mystérieux d'ailleurs. Et avec le Gravettien, c'est une époque où on commence à retrouver des restes humains dans des postures et dans des états de conservation assez variables, mais ça se répand nettement plus, oui.
Antoine Balzo, en 1874, l'anthropologue Quatrefages définit à partir des ossements dont nous parlons, bien sûr, une nouvelle race, la race de Cro-Magnon.
Alors ça s'inscrit dans un contexte un peu différent de celui d'aujourd'hui, évidemment, et puis surtout, ça montre que ce terme de race avait un sens vraiment différent. L'anthropologie de l'époque avait pour objectif justement de classifier les groupes humains, et à cette époque-là, l'idée était qu'il y avait des races différentes. Il y avait aussi un sous-entendu de hiérarchie entre ces races. On supposait que les races blanches étaient supérieures aux jaunes et supérieures aux noirs, et on essayait de différencier ces différents groupes-là. Et pour faire ça, on utilisait juste la forme du crâne. Au début, c'était même juste quelques mesures, une ou deux, et puis ça s'est complexifié avec le temps. Les groupes sont devenus de plus en plus nombreux, et puis au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, justement, les anthropologues se sont rendus compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça, que il y avait superposition dans les valeurs métriques entre les différents groupes humains, pour ne plus les appeler races, et qu'on ne pouvait plus les séparer aussi clairement qu'il le pensait. Et une des contributions des fossiles à cette discussion-là, ça a été de montrer que justement, si on intégrait des hommes du passé, ça a explosé les connaissances qu'on pouvait avoir sur la diversité humaine, et ça a changé aussi cette perception qu'on avait d'évolution du crâne avec ces gros crânes arrondis qui étaient le summum de l'intelligence. On se rendait compte que finalement, ça fonctionnait pas très bien quand on incluait les fossiles dans ce schéma-là.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
1874, on est au cœur de l'anthropologie raciste.
Oui, mais vraiment dans ce sens-là, où le but est de classifier et pas de créer cette idée du racisme comme on l'entend aujourd'hui, de stigmatisation de certaines populations.
Et en tout cas, les races ne marchent pas. C'est d'ailleurs ce que vous expliquez dans votre petit livre 33 idées reçues sur la préhistoire. Ça ne marche pas pour l'homme.
Ça fonctionne pas du tout pour l'homme, parce qu'on ne peut pas classer l'humanité en petits groupes aujourd'hui. Ça marche pas pour la couleur de peau. Si on regarde la diversité de couleurs de peau qu'il y a chez les hommes, justement, on ne peut pas faire de démarcation claire en fonction des régions du monde. Et ça, on le sait depuis très longtemps. Même au moment où ils mesuraient les crânes, ils savaient, eux, déjà, qu'on ne pouvait pas classer en fonction de la couleur de peau. On sait aujourd'hui qu'on ne peut pas classer non plus en fonction de la forme du crâne, la forme du cerveau, la taille de quoi que ce soit, etc. Et puis en fait, un autre biais, c'est qu'aujourd'hui, le terme de race dans le langage actuel, il est dédié à ce qui est lié à de la sélection anthropique, au fait de choisir des animaux pour qu'ils se reproduisent, pour favoriser certains traits anatomiques. Et donc, ça marche bien pour les chiens. Il y a plein de races différentes de chiens. Là, on pourra en plus arriver à les différencier d'un point de vue biologique en les mesurant. Mais ça implique donc l'action de l'homme, ce qui est pas du tout applicable pour nous, puisque tous les hommes actuels ont eu une évolution, une diversification totalement naturelle, sans interaction particulière, sans souhait de transformer les hommes. Donc le mot de race ne fonctionne plus aujourd'hui pour nous.
Quel fut en tout cas l'impact de cette découverte dans le monde de l'anthropologie physique, on dirait aujourd'hui l'anthropologie biologique ?
La découverte de Cro-Magnon a eu vraiment un impact important et durable. Premier impact, ça a été de se rendre compte que la forme du crâne ne pouvait pas permettre de classifier les groupes humains de manière très très facile. Autre aspect important, rapidement, c'est qu'ils se sont rendus compte que certains caractères qu'on supposait comme liés à la supériorité humaine étaient visibles d'une manière encore plus importante chez ces hommes de Cro-Magnon, et ce qui faisait d'ailleurs un réel problème pour l'anthropologue du milieu du 19e siècle. L'homme blanc était supérieur à tous les autres et l'homme d'aujourd'hui était supérieur à ceux du passé. Et là, on se retrouvait avec des fossiles qui avaient un cerveau plus gros que les hommes d'aujourd'hui, des lobes frontaux plus développés, et pourtant, c'était exactement ce qu'ils considéraient comme des traits liés à l'intelligence aujourd'hui. Donc, les raisonnements étaient bouleversés par cette découverte-là. Et encore aujourd'hui, il y a ce changement de vision qu'apportent ces fossiles, parce que ça nous montre que la diversité biologique qu'on a chez l'homme actuel est importante, mais ne comprend pas tout ce qui a existé par le passé. Les hommes préhistoriques de notre espèce ont une diversité qui n'existe plus aujourd'hui.
Donc la morphologie de ces individus serait légèrement différente de la nôtre ?
Oui, si on la prend en moyenne, c'était des hommes de stature importante, plus costauds, avec des hommes plus grands que la moyenne des Français actuels. Et puis il y a aussi des différences qui sont vraiment notable. Par exemple, le cerveau, à l'époque du paléolithique supérieur, généralisons pour pas utiliser le terme de Cro-Magnon, les hommes qui nous ont donc précédés en Europe avaient un cerveau qui était à peu près 15% plus gros que le cerveau moyen des hommes d'aujourd'hui. On pense souvent que le cerveau a augmenté tout au cours de l'évolution humaine et qu'aujourd'hui on a le cerveau le plus gros. C'est pas vrai. Les Néandertaliens avaient un cerveau plus gros que le nôtre en moyenne, et les hommes du paléolithique supérieur avaient aussi un cerveau plus gros avec une forme différente. C'est ça qui est surprenant d'ailleurs. C'est que les proportions n'étaient pas les mêmes que la moyenne chez les hommes d'aujourd'hui. Ça montre en fait que notre cerveau est très plastique, a une variation de forme importante, mais aussi une variation dans le temps, avec une diversification de cette forme sur notre passé depuis quelques dizaines de milliers d'années, qui montre que notre cerveau est vraiment quelque chose d'extraordinaire, beaucoup plus plastique qu'on a pu le penser, rien qu'en se basant sur la diversité actuelle.
En tout cas, Antoine Balzo, Cro-Magnon est-il l'ancêtre des Français ?
Eh bien, c'est une idée qu'on a toujours eue, enfin, qu'on a même un peu stigmatisée, utilisée dans les livres. Cro-Magnon ne l'est finalement pas du tout, vraiment pas. Ce sont les résultats de plein d'analyses différentes qui nous le montrent, parce qu'on sait que Cro-Magnon n'a pas contribué au patrimoine génétique de l'ensemble de l'humanité actuelle. En fait, tous les hommes sortis d'Afrique qui ont entre 100 000 et 20 000 ans à peu près de notre espèce, on a la preuve, ou en tout cas on n'a aucune trace de leur patrimoine génétique dans l'ensemble de l'humanité actuelle. Ça veut dire qu'ils ont disparu sans descendance.
C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous n'aurions aucun gène de Cro-Magnon, mais quelques gènes de Néandertal ?
Eh oui, c'est l'aspect un petit peu amusant finalement. L'évolution même de notre espèce, ça a été quelque chose de très complexe, qui ne s'est pas fait de manière simple. Alors on sait maintenant que nous sommes originaires d'Afrique, comment Sapiens y est apparu. L'image un petit peu d'Épinal, c'est d'imaginer que Sapiens est sorti d'Afrique une fois, puis a conquis l'ensemble de la planète, s'est dispersé partout, a remplacé tout le monde. C'est pas si simple que ça, c'est arrivé en effet. Sapiens est sorti d'Afrique, mais il est ressorti d'Afrique plus tard aussi parce qu'il y a eu des périodes de crise et des moments où notre espèce s'est rétractée, a failli disparaître même. Et ce qui fait que ces premières populations en dehors d'Afrique ont disparu sans donner de descendance, et que ce sont les hommes d'après qui ont aussi croisé Néandertal d'ailleurs, où des gènes de Néandertal sont restés marqués dans notre espèce ancienne. Pour revenir jusqu'à nous aujourd'hui, on a tous un petit peu de gènes de Néandertal alors qu'on n'en a aucun de Cro-Magnon.
Quelle est l'origine de Cro-Magnon ? Bernard van der Mersch, qui est un grand chercheur, le voyait issu dans les proto-Cro-Magnons du Proche-Orient. Bien sûr, deux grands sites, Kafsé et Skul en Israël.
Eh bien, ça fait partie des zones encore mystérieuses de notre préhistoire. c'est compliqué d'arriver à relier les spécimens les uns après les autres. Forcément, on retrouve que des points épars, des fossiles, au cours du temps, on en a très très peu. Plus on va loin dans le temps, moins on en a. C'est vrai que les plus anciens qu'on a vus jusqu'à peu hors d'Afrique venaient de Caves et Escoules. Maintenant, il y en a des un petit peu plus vieux, on en connaît aussi en Asie. Et en fait, on n'est pas capable aujourd'hui de dire lequel est l'ancêtre des suivants, parce que il ne faut peut-être pu essayer de voir l'histoire humaine comme une histoire de migration toute simple, avec juste une direction et puis des hommes qui succèdent au cours du temps ensuite, mais comme une expansion au cours du temps, avec des moments où l'homme est plus dispersé, puis se rétracte, reprend plus d'espace, et que tout ça est accompagné de mouvements dans tous les sens, et que finalement notre humanité actuelle est liée à cette complexité de mouvements et de groupes humains qui ont existé par le passé. Et c'est pour ça que on n'arrivera jamais à trouver le fossile ou le petit groupe qui est notre ancêtre direct, parce qu'il n'y en a pas réellement, en fait. On est le résultat de multiples mouvements et de multiples migrations et évolutions de groupes humains au cours du temps.
Puisque vous parlez d'Afrique, il faut citer peut-être une ou deux grandes découvertes liées à Sapiens, et non pas, bien sûr, Sapiens Sapiens, hein, au travers notamment d'un très beau gisement qui vient d'être découvert au Maroc, le Jebel Iroud.
Jebel Iroud, c'est un site où on a trouvé depuis un moment beaucoup de fossiles, et l'an dernier, ou cette année justement, une annonce a été faite de réétude de plusieurs spécimens, de redatation qui montre que ces individus avaient 300 000 ans, qu'ils avaient plusieurs caractéristiques morphologiques qu'on ne voit que chez notre espèce, mais pas toutes. Ce qui soulève un peu la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on les met chez Homo sapiens ou pas, puisqu'ils nous ressemblent, mais pas totalement, mais qui sont quand même différents de tous les autres.
Et puis, il y a la découverte de la grotte de Mislia, donc sur le mont Carmel, qui a livré une demi-mandibule importante.
Importante parce qu'elle remet les choses un petit peu à plat sur cette idée des mouvements humains. On n'avait avant que des fossiles au Proche-Orient, aucun en dehors avant quelques dizaines de milliers d'années. Et puis, au fur et à mesure des découvertes, on a étendu et le temps et l'espace des découvertes. Et justement, ce nouveau fossile israélien, il est nettement plus ancien que ceux trouvés avant à Kavzeh. Pourtant, ça ne chamboule pas finalement ce qu'on connaît de l'évolution de notre espèce. Ça montre juste que la dynamique s'est faite plus loin dans le temps. Il faut être conscient aussi, quand on trouve un fossile, qu'on dit on a trouvé le plus vieux, le premier, que c'est pas le premier ni le plus vieux, c'est le premier que l'on trouve, c'est la première évidence que l'on ait, mais ça veut certainement dire qu'il y en a eu d'autres auparavant. Et c'est pour ça qu'il faut imaginer cette expansion d'Homo sapiens comme quelque chose de plus ancien que ce qu'on pensait. C'est avant 100 000 ans. Là, c'est indéniable, c'est peut-être 150 000, 180 000 ans, et ça s'est fait de manière plus étendue aussi, puisqu'on connaît des fossiles en Asie qui ont plus de 100 000 ans aujourd'hui et qui sont clairement attribuables à Homo sapiens.
Après la découverte donc dans l'abri de Cro-Magnon, bien d'autres découvertes ont été réalisées, notamment à Grimaldi. Grimaldi, c'est assez intéressant, puisqu'on aurait un individu qui serait très grand, 1,78 m. On y a vu aussi les ancêtres des négroïdes.
Eh bien, c'était toujours à l'époque de cette anthropologie très classificatoire. Cette anthropologie a vu un petit peu raciste. Et le spécimen de Grimaldi, justement, a causé aussi des problèmes aux anthropologues de l'époque, parce qu'il avait certaines caractéristiques qui rappelaient ce qu'il classait dans les nègres de l'époque, ces populations africaines, avec une morphologie crânienne un petit peu différente de celle des Européens. Et ça a chamboulé toutes ces visions-là, et ça rentre vraiment dans le même champ que la découverte de Cro-Magnon avec son gros cerveau et ses gros lobes frontaux. Là, on avait des fossiles avec une mâchoire un peu prognate qui chamboulait cette idée reçue d'origine locale des populations et de supériorité des Européens sur les autres.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on revient donc sur la couleur de la peau, qui est un sujet extrêmement d'actualité aujourd'hui. On a vu cet individu, le Cheddarman, découvert en Angleterre, figurer donc tout brun. Qu'en était-il aujourd'hui de Cro-Magnon ?
Eh bien, pour être tout à fait honnête, on n'en sait pas grand-chose. Soyons raisonnables quand même. Indéniablement, imaginer quelle pouvait être la couleur de peau des hommes du passé, c'est quelque chose dont on pouvait rêver il y a quelques années. Il se trouve qu'on peut trouver quelques indices, finalement, grâce à la paléogénétique, qui peut identifier parfois certains allèles, certaines parties de gènes, qui peuvent donner des indications sur la couleur de peau. Il faut quand même rester prudent. quand on identifie un allèle qui, chez des populations d'aujourd'hui, a un certain effet, on n'a pas la certitude qu'il faisait la même chose il y a quelques milliers d'années, et encore plus si on remonte plus loin dans le temps. Il y a toujours ce problème-là d'être sûr de la fonction d'un gène et puis de son expression par le passé. Il n'y a aucune certitude sur ce point-là. Par contre, petit élément intéressant, c'est que justement sur plusieurs spécimens fossiles anciens, quasiment tous pour lesquels d'ailleurs on a pu identifier ce type d'allèle-là, on a retrouvé une forme qui correspond à une couleur de peau foncée chez les hommes d'aujourd'hui, que ce soit des fossiles espagnols ou anglais qui ont quelques milliers d'années, à 15 000 ans à peu près. C'est pour ça que ça a amené certains scientifiques à représenter leur reconstitution d'hommes préhistoriques avec une peau foncée. Et forcément, ça marque les Européens d'aujourd'hui d'imaginer que les hommes du passé étaient peut-être foncés. Mais finalement, c'est une probabilité qu'il ne faut pas jeter tout de suite. Et peut-être que finalement, l'Europe a été habitée plus longtemps par des hommes noirs de peau que par les petits blancs que nous sommes aujourd'hui.
Vous aviez étudié l'endocrâne de Cro-Magnon 1, donc pour voir sa capacité, bien sûr, crânienne, pour en avoir exactement le moulage. Aujourd'hui, vous avez retravaillé sur le visage donc de ce Cro-Magnon 1, de ce fameux vieillard, avec Philippe Charlier.
On a même fini d'analyser l'ensemble de la morphologie, parce qu'il y avait toutes ces questions liées à l'anatomie. Le cerveau, c'était un aspect important qui n'avait pas pu être étudié par Broca, qui pourtant était le grand ponte du cerveau, un grand maître qui nous a fait tellement avancer dans cette discipline-là. Bah pour Cro-Magnon 1, il n'avait pas pu l'étudier simplement parce que le fossile est tellement complet que ce n'était pas possible ni d'observer ni de mouler l'intérieur. Grâce à l'imagerie, on avait pu le faire. Et aujourd'hui, on a franchi encore une étape en utilisant des données microtomographiques, c'est-à-dire un scanner qui est au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui est extrêmement performant. C'est le plus puissant qu'on ait dans un musée au monde. Et ça nous permet d'atteindre une résolution très très fine, bien plus importante qu'un scanner médical. Et là, ça a été utile pour aller étudier un des derniers aspects qui restait vraiment mystérieux sur cet homme de Cro-Magnon. Il a des pathologies sur l'ensemble de son corps. Il y a plein de diagnostics qui avaient été proposés pour essayer d'expliquer ça. Et là, la microtomographie nous a permis de mieux comprendre cette fameuse lésion qu'il a sur le frontal, mais aussi différentes zones de l'intérieur du crâne, les foramens qui laissent passer les nerfs sur la base du crâne ou les méas auditifs internes qui sont un caractère assez important, qui ont permis de poser un diagnostic enfin à cette pathologie qu'aurait pu avoir cet homme de Cro-Magnon, grâce à Philippe Charlier.
Donc, le vieillard avait des sortes de boursouflures liées à des neurofibromatoses, c'est bien ça, et donc liées à une maladie génétique.
C'est ça, c'est une maladie génétique qui crée des petites tumeurs qui sont bénignes, qui peuvent être très nombreuses. Et là, on a un exemple assez parlant. Celle qui l'aurait eu sur l'os frontal aurait induit cette résorption osseuse, aurait marqué comme ça l'os de manière très prononcée. On voit aussi des lésions sur la mandibule, sur le bassin, sur des os des membres. Ce qui fait que l'ensemble de ces caractères-là, et puis sur les méas auditifs internes aussi, qui sont les conduits de l'oreille, en fait, qui sont asymétriques, ont une forme différente à gauche et à droite, tout un ensemble de signes qui plaident pour cette maladie-là. C'est donc une neurofibromatose de type 1. Il paraît que c'est quelque chose d'assez classique dans le domaine médical, qui est fréquent chez les hommes d'aujourd'hui. Il y a des gens qui se portent très très bien qui ont cette maladie-là. Mais justement, il faut recontextualiser quand on étudie les spécimens du passé. Ils ne disposaient évidemment pas de toutes les capacités médicales qu'on a aujourd'hui. Et donc, quand on retrouve des traces d'une maladie, parfois l'expression peut être très développée, très importante et même très surprenante. Même pour des médecins actuels, parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir exprimer à ce point-là.
À lire donc le dernier ouvrage d'Antoine Balzo, 33 idées reçues sur la préhistoire, paru chez Belin. Carbone 14 salue la mémoire d'un grand préhistorien, Jacques Tixier, qui vient de disparaître. Incontournable spécialiste de la préhistoire d'Afrique du Nord, du Liban et du Golfe arabo-persique, pionnier de l'école française de technologie lithique. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Bastien Varigo, et avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera à la mémoire gauloise.